Je vais lire les deux premiers versets de l'épître à Pierre. Donc, j'ai reçu pour ce matin l'étude de ces deux versets. Il n'y a que deux versets, mais qui sont extrêmement importants. Peut-être on peut mettre la lumière, je trouve que c'est un peu sombre. 1 Pierre 1, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. C'est la parole du Seigneur. Oui, est-ce qu'on peut mettre la lumière? Juste appuyer sur le côté, là. Quelqu'un? Merci. Parce que je vois complètement dans l'obscurité, là. Voilà. Cette épître, il y a deux épîtres, hein, Pierre écrit deux épîtres. Cette épître, écrite par Pierre, se veut extrêmement pratique. Car Pierre ne prétend pas être théologien. Hein. C'est un pêcheur, tout simple, contrairement à Paul. Hein. Paul, il a fait des études rabbiniques, extrêmement cultivé, etc. On a beaucoup d'épîtres de sa part. Mais Pierre dira d'ailleurs, Paul est compliqué, en tout cas complexe, et on le comprend mal. Comme je vois, je ne suis pas tout seul à avoir du mal à me faire comprendre. Mais voilà, et ça mérite de creuser, Paul. Mais Pierre, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça non plus. Pourquoi ? Parce que c'est un leader apostolique qui a fondé l'enseignement de l'Écriture sur la révélation. Donc que ce soit la révélation ou que ce soit une compréhension par le raisonnement, eh bien, ce qui est important, c'est de fonder sur la vérité. Et j'aime à dire que vérité, réalité, c'est la même chose. Parce que Dieu est réel, on peut le rencontrer, on peut avoir un contact avec lui, et il nous transmet la vérité sur la réalité. Et quand plus on va vers la vérité, plus on connaît la réalité. Le thème important de cette lettre, cette première épître, c'est la souffrance dans l'épreuve, due à l'opposition de ceux qui rejettent l'Évangile. Donc on est tous confrontés, et dans tous les siècles hein, d'ailleurs, pas aujourd'hui, à cette confrontation des gens qui rejettent l'Évangile, qu'on veut leur apporter, et qui le rejettent. Et donc il y a une souffrance, vous voyez, c'est pas juste la souffrance, voilà, j'ai mal, j'ai le coronavirus, et, bon, il n'y a pas que cette souffrance-là. C'est la souffrance de voir qu'il y a une opposition à la vérité de l'Évangile. Donc c'est fait pour ça, cette lettre-là. Le deuxième lettre, que vous pourrez lire aussi, c'est pour encourager les chrétiens dans la foi, surtout dans l'épreuve de l'hérésie, c'est-à-dire des hérésies, c'est-à-dire des doctrines, des fausses doctrines, d'autres évangiles, etc. Des déviances doctrinales qui viennent dans l'Église. Mais on va ce matin juste nous concentrer sur les deux premiers versets que je viens de lire. Alors, le premier verset, c'est celui-là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces. Donc, il cite Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie. Nous devons vivre comme des hôtes de passage. J'en ai parlé à Michel qui disait qu'à son époque, quand elle était petite, hein, parce qu'elle a connu l'Évangile à 4 ans, et elle a suivi toujours son Église, dans son Église, eh bien, c'était le thème de base, récurrent, on parlait que de ça. Vous êtes des hôtes de passage. Pardon ? Vous êtes étrangers sur la terre. Aujourd'hui, on n'entend pratiquement plus, parce qu'on ne veut plus être étranger, on veut être assimilé. Et on veut pas être quelqu'un qui dérange, etc. On veut chercher le consensus, etc. Donc on a basculé dans l'autre sens, vous voyez. Et souvent c'est comme ça dans les êtres humains. On est d'un côté, bien sûr, c'est excessif, on n'est pas que étranger, mais on est aussi étranger. Et donc, on bascule dans l'autre sens. À l'époque où Michel était dans une église de 600, il n'était que 4 à faire des études supérieures, parce que c'était très mal vu. Il ne fallait surtout pas aller à l'université. C'était à l'horreur absolue, quoi. C'était la perte complète de la foi, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je dis simplement... la parole de Dieu, au travers de Pierre, nous dit que nous vivons comme des hôtes de passage. Oui. Il ne faut pas caricaturer, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont présentées par la parole. Il est donc exclu que le chrétien se prenne comme un résident sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il va s'attacher aux choses de la terre comme un propriétaire des biens. Qu'ils soient matériels ou autres, comme ses enfants. Il y en a qui s'attachent à leurs enfants. On ne sait pas propriétaire des enfants, etc., etc. Même le pasteur, hein, je parle en connaissant deux causes, le pasteur est considéré comme un berger. Et vous savez, je l'ai déjà dit, le berger n'est pas propriétaire de son troupeau. C'est très rare, c'est un petit troupeau de, hein, une dizaine de moutons, mais quand c'est vraiment un troupeau, hein, qui est conséquent, 2, 3 000, 6 000 moutons, il y a plusieurs propriétaires là-dedans. Tous les propriétaires confient leurs moutons à un berger qui est salarié, enfin très très peu, mais pour faire ce job. Donc le berger n'est pas propriétaire de son troupeau. Le pasteur n'est pas propriétaire de son... Moi, je ne suis pas propriétaire de vous, enfin des membres de l'Église. Le berger a souvent un troupeau composé de moutons, de membres différents, de propriétaires différents. Il est le gardien, par contre. On lui a confié la garde du troupeau pour qu'il les nourrisse correctement, pour qu'il les soigne et les protège des dangers qui sont récurrents quand on est en montagne, à l'extérieur. Et ça doit être la vision du pasteur titulaire d'une église comme la nôtre, et je me sens responsable dans ce sens-là. En tant que gardien du troupeau. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'exerce pas d'autorité sur les moutons parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Parce qu'il est tout seul, hein, protégé des loups, à protéger toutes sortes de choses, donc il doit intervenir et on doit lui obéir. Mais dans cet esprit-là, non pas propriétaire, mais gardien. Imaginez que le troupeau se précipite dans un ravin sans que le berger les en empêche. Parce que, soi-disant, il n'aurait pas d'autorité sur son troupeau. Vous imaginez la réaction des propriétaires quand il va rentrer tout seul, hein ? Tous les propriétaires vont lui sauter dessus. Et il risque vraiment de sa peau, hein ? S'il rentre bredouille. Non, le berger a un rôle capital de surveillance de son troupeau pour le ramener au bercail en bonne santé. Et pour ce faire, il exerce son autorité sur les moutons. Le deuxième élément que nous voyons ici, c'est le mot « dispersé ». Le mot « dispersé » que Pierre a utilisé, c'est « diaspora ». Vous êtes dans une diaspora. C'est le même terme que celui qui est utilisé pour les Juifs en exil à Babylone, par exemple. Ils sont en diaspora, hein, sans parler de la diaspora depuis 2000 ans des Juifs qui sont revenus en 48 dans leur pays. Le chrétien fait partie de la diaspora dans ce monde. Ceci étant, ce n'est pas des parias, ceux qui sont dans la diaspora. Simplement, ils gardent leur culture. Les Juifs ont gardé leur culture dans les différentes diasporas. Le problème, c'est qu'ils ont assimilé à des cultures locales. Donc on a les Ashkénazes, les machins, etc., différentes sortes, parce qu'il y a des assimilations qui se sont faites à la culture juive. Mais prenez Daniel. Lui, il ne s'est pas assimilé. Il était dans la diaspora et il a affiché ses valeurs. Et pourtant, il était bien placé, hein, auprès du roi, auprès de l'empereur de Babylone. Et cela ne l'a pas empêché ni d'être au service du roi, mais ni de vivre ses valeurs et de les maintenir coûte que coûte, malgré les injonctions qu'il a reçues, qu'il risquait sa vie. Il ne s'est pas plié aux règles que le roi imposait, en particulier de manger des viandes, etc. Alors, certains, vous voyez, je fais une parenthèse, certains disent « Oh, être chrétien, c'est être faible. » Ah oui, c'est la faiblesse, bon, vous croyez en Dieu parce que moi j'ai pas besoin de Dieu, etc. On entend souvent ça, en tout cas en France, voilà, c'est être faible. Est-ce que vous croyez que Daniel était faible? Hein? Est-ce que vous croyez que Daniel, c'était, comment on appelle ça? Pas un féministe. Non, non, une femmelette, une femmelette. Voilà, j'ai cherché un diminutif. Souvent, qu'on dit, oh, c'est une femmelette. Voilà, parce que souvent, les femmes, bon, dans la religion catholique, ils étaient. Moi, j'étais catholique, et souvent, c'était les femmes qui étaient à la messe le matin, bon, c'est les sœurs surtout. Moi, j'étais serment de messe, et il n'y avait que des femmes. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on attribue aux femmes, d'être croire, de ne pas être fort, de ne pas savoir se débrouiller dans la vie, etc. Donc, voilà, c'est une femmelette. Est-ce que vous croyez que Daniel était une femmelette? Voilà. Il a risqué sa vie, alors qu'il était auprès de la plus haute instance de gouvernement. Eh bien, être chrétien, c'est afficher ses valeurs et les défendre, quel que soit le prix. Il y a un évangile aujourd'hui qui s'appelle le dominionnisme, qui se veut prendre les montagnes culturelles de ce monde, mais qui n'a pas compris que les montagnes appartiennent à la culture de ce monde, et non pas aux chrétiens. On n'a pas à les prendre, ces montagnes de la culture de ce monde. Nous, il faut qu'on prenne les montagnes de la culture du royaume. Et l'appel du chrétien, c'est être sel et lumière dans ce monde. C'est ça l'appel. C'est pas de prendre des places pour essayer de changer la culture de ce monde. Dieu a appelé Daniel pour être là, pour être un témoin de la puissance du royaume de Dieu. Il ne faut jamais mélanger le témoignage avec les valeurs du royaume et l'engagement dans la politique pour chercher à changer le monde. Le monde sera jugé, ne sera pas changé. Il sera jugé à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi Israël comme son peuple, qui devait être son peuple témoin parmi les nations. C'était ça. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Christ a choisi son Église pour être un témoin des valeurs de son royaume dans ce monde. Ça n'a pas changé. Sauf que l'Église est composée d'un ensemble de citoyens des nations et pas uniquement un peuple avec une race spécifique. Le verset 2 est le suivant. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan. Et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Alors, lu comme ça, on a l'impression que c'est Paul qui parle. Hein? C'est compliqué. Non? C'est simple pour vous? Et pourtant, c'est Pierre qui l'a écrit. Dans ce verset, Pierre, il met en évidence l'action de la Trinité. Vous voyez, si les pères de l'Église ont conçu la notion de Trinité, c'est-à-dire tri-unité, le U, ils l'ont enlevé, ça fait Trinité, tri-unité, c'est-à-dire l'unité dans les trois, la Trinité, eh bien, Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien, on a une référence ici dans l'apôtre Pierre, d'ailleurs qu'on va retrouver dans le verset 3, deux fois. Il commence sa lettre avec l'affirmation de la Trinité. La substance divine, c'est l'unité d'être. Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, qui a dit, quel est ton nom? Si je vous demande votre nom, quand vous êtes arrêté, on va vous demander votre nom. Vous vérifiez votre nom, votre identité. Le nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Là aussi, est-ce que c'est simple? Vous comprenez tous ce que je veux dire? Oui, la Bible, ce n'est pas si simple que ça. Quand on veut creuser, je suis celui qui suis. Eh bien, c'est l'être par excellence. C'est l'unité d'être, mais qui n'est pas un, qui est trois. C'est une unité cohérente et indivisible. Autant les trois personnes de la Trinité agissent ensemble pour conquérir à un même but, à une même finalité, celui de notre salut. Et c'est ça que Pierre dit. Le salut, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est nous sauver. Le plan de Dieu, c'était pour nous arracher du péché qui est entré par Adam et de nous amener à nouveau dans sa présence. C'est Apocalypse, Genèse, Apocalypse. Entre les deux, c'est le plan qui se déroule, avec beaucoup de réticence de la part des humains, d'Israël et de nous, aujourd'hui dans l'Église. Eh bien, c'est en effet ça que Pierre va développer. Pierre va développer la Trinité chrétienne qui répond au Shema Israël. Le Shema Israël, c'est en français courant, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est dans Deutéronome chapitre 6 que vous trouverez ça. En hébreu, je laisserai Colette dire à ma place, elle étudie tout ça, c'est Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel. La Trinité suit le chemin Israël exactement de la même façon, parce qu'il n'y a rien de changé dans ce Dieu, sauf que l'unité trinitaire est fondée sur trois choses, on appelle hypostase, bon, c'est les soutiens de l'unité. Alors, on va regarder un petit peu plus ce Elohenu, l'Éternel, notre Dieu, et le Echad, l'Éternel est un. Le 1 en question, pratiquement, j'ai regardé toutes les versions de traduction qui sont un peu à disposition, ils le traduisent presque tous par « l'Éternel est unique », un, unique, il n'y a qu'un, etc. Moi, je propose de le voir sous un autre angle. Parce que le 1, le unique, etc., ça renvoie à des mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 1. Bon, on pense ça, 1. Voilà. Donc 1, il n'y en a qu'un. Eh bien, ce n'est pas des mathématiques. La Bible n'est pas des mathématiques. Mathématiques, c'est une invention humaine qui est très rationnelle, c'est vrai, pour rationaliser les choses. Mais là, il n'est pas question de mathématiques, de 1, 2, 3, une suite de chiffres. Mais il s'agit de l'unité qui est convertible à l'être. Je le disais tout à l'heure, Yahvé, c'est l'Éternel, je suis celui qui suis. C'est l'être, c'est la notion d'être. Il faut être avant de faire. On peut faire quand on est quelque chose, mais sinon, si on n'est pas vivant, on ne peut pas faire. Voyez. Donc l'être et le faire, bien sûr, mais le faire, ça vient quand on est, d'abord. Donc Dieu est une seule substance qui se confond à l'être. Ça veut dire qu'il n'y a pas de division en Dieu. Or, Dieu est invisible, est indivisible, même s'il est composé de trois personnes, puisque le Shema Israël, il renvoie ça, on le verra tout à l'heure, et la Trinité, surtout, il n'y a plus aucun doute possible qu'il y a bien un Père, un Fils et un Esprit. C'est un mystère. C'est vrai que les mathématiques voudraient tout expliquer, mais là, c'est un mystère. Le 1, ce n'est pas unique, c'est ça renvoie à la notion que plusieurs composent un seul, qui est indivisible, mais qui sont plusieurs. Bien sûr, dans l'Occident, qui est imbu de logique formelle, un chat est un chat. Hein, bon, voilà, un chat n'est pas un chien, bon, donc on aime bien ça. Voilà. Le problème, c'est que la foi, elle embrasse une vérité qui n'est pas forcément rationnelle. Et là, on saisit par la foi cette notion de Trinité que Pierre commence à nous expliquer dans sa première épître. Alors, la Torah, qui est en fait la Tanakh en hébreu, révèle déjà que l'Éternel est Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'ils sont un, c'est-à-dire Echad. En effet, les noms de l'Éternel, qu'on trouve depuis la Genèse, d'ailleurs le premier mot de la Genèse, au commencement Dieu, c'est pas Yahvé, c'est Elohim, c'est un pluriel, c'est les dieux. Ah bien sûr, on est choqué, parce que on ne peut pas dire il y a des dieux. Donc vous voyez, déjà le mystère commence par nous choquer, donc on bloque dans l'interprétation qui suit. Les noms de l'Éternel sont à la fois Yahvé, et il y a plus de Elohim, c'est-à-dire des pluriels, que de Yahvé dans la Bible, tout le monde dans l'Ancien Testament. Et des Adonai, Adonai c'est des pluriels, c'est pluriel. C'est Adon singulier, Adonai pluriel. Donc c'est les seigneurs, c'est les dieux, les seigneurs. Donc Dieu s'appelle les dieux, donc le Dieu de la Bible, hein, les dieux et les seigneurs. Et le mot Eran signifie bien l'unité de cette diversité et non pas l'unicité. Si on peut l'appliquer, l'unicité, c'est une évidence qu'il est unique, mais le 1 renvoie à l'unité de Dieu. Dans les temps bibliques, alors là, je vous renvoie à des études que vous pouvez faire, parce que là, ça va creuser très très loin, mais vous lisez souvent, mais vous sautez ces passages, parce que moi aussi, hein, je suis comme vous, quand je ne comprends pas, je saute, sauf si j'ai le temps d'étudier. Le messager de l'Éternel, vous avez déjà vu ça, le messager de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel? Vous avez déjà vu ça dans l'Ancien Testament? Et c'est quoi pour vous? Eh oui. Eh bien, le messager de l'Éternel renvoie à Dieu lui-même, qui est un et plusieurs. Quelques personnages de la Bible rencontrèrent le messager de l'Éternel ou le messager de ses faces. Je renvoie à Ésaïe 63. Vous pouvez lire tout le passage d'Ésaïe 63, mais surtout le verset 9, où il y a Panim et Panay, qui est le visage et la face. Le terme exact était le messager de l'Éternel qui fut traduit par l'ange de l'Éternel, parce que messager, ange, ange, c'est des messagers. Et il était la parole était divin, il était un, unité avec le Père. Ça c'est Ésaïe, vous étudierez tout Ésaïe, même avec des commentaires si vous voulez, pour bien voir, c'est extraordinaire. Moi, je me suis attardé un peu sur Ésaïe 63, mais je n'ai pas le temps de le développer. En effet, tous les anges portaient un message de la part de l'Éternel. Et n'étaient pas adorés. Les anges ne doivent pas être adorés. Mais le messager de l'Éternel était décrit et s'exprimait en étant l'Éternel. Il était aussi l'Éternel. Donc vous voyez, quand je dis que Pierre n'était pas compliqué ou complexe, c'est une gageure, parce que la Trinité, en fait, elle est peut-être plus facile à comprendre que le chemin Israël, vous voyez, que le 1 Eran. Les personnages bibliques, eh bien, adoraient cet ange, Abraham et autres. Donc, ils ne pouvaient pas adorer des anges, sinon ils étaient idolâtres. Mais son nom était inconnu. Les anges, souvent, ils ont des noms, Michael, Raphaël, ça. Et tout ce que dit la Tanakh, donc la Torah, c'est que son nom était merveilleux. Juge, chapitre 13, verset 8, entre autres. Et cette référence à son nom inconnu, mais merveilleux, renvoie à la prophétie d'Ésaïe 9, 6 et 17 sur la naissance du Messie divin, dont le nom est conseiller merveilleux, héros divin, prince de la paix. Si on prend Genèse 22, vous pouvez lire Genèse 22, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors le messager de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le messager de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Si on prend Genèse 32, Jacob demeura seul. Alors un ange, un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Et il dit « Quel est ton nom ?» Vous voyez, à chaque fois le nom, hein, l'être, le nom. « Qui es-tu ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. » Il est persistant, hein, Jacob. Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, c'est-à-dire j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est la parole de Dieu. Dans Exode 3, verset 2, il écrit que le messager de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu, Elohim, pluriel, l'appela du milieu du buisson. Et dit Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et dès que le Seigneur vit qu'il approchait pour voir, il appela du buisson disant, Moïse, Moïse. Il répondit, qu'y a-t-il? Et le Seigneur lui dit, ne viens pas ici. Dénoue la chaussure de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Le Seigneur dit encore, je suis les dieux, Elohim. Vous voyez, là, ce n'est pas Yahvé, c'est Elohim, de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse détourna le visage, car il n'osait point regarder Dieu, qui est à nouveau le terme Elohim qui est utilisé. J'ai cité tout à l'heure Genèse 1:1. Au commencement, Dieu, c'est Elohim, ce sont les dieux. Je citerai Marc, chapitre 12, verset 29. Ça ne se trouve pas dans les autres évangiles, mais dans Marc, il est dit, voici la réponse de Jésus à la question, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que répond Jésus? Il dit, le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Je l'ai lu ce matin dans Deutéronome, Jésus le reprend mot à mot. Cette réponse de Jésus est reprise par les évangélistes dans cette introduction « Écoute Israël » et d'autres passages font écho au chemin Israël, ainsi dans les lettres de l'apôtre Paul, lorsqu'il rappelle qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Odeus, Theos, Eime, Eis. Là, c'est en grec. Colossiens, 1 Corinthiens, pardon, 8, 4. Pour revenir à Pierre, dans son épître, va commencer par rappeler cette identité de Dieu, de l'unité divine que le christianisme appelle Trinité. On a baptisé Trinité, Triunité. Mais que Pierre révèle ici, comme Paul, comme tout le Nouveau Testament. C'est une unité complexe. C'est une unité qui est formée de trois, donc de plusieurs. Vous voyez, donc faut pas chercher, ce n'est pas des mathématiques. C'est comme 1 plus 1 égale 3, vous voyez, c'est pas tout à fait juste, hein, mathématiques. Là, c'est 1 est fondé sur 3. Ce Dieu que nous adorons est aussi un modèle d'identité communautaire. La communauté, et ça, tous les théologiens l'acceptent et l'enseignent dans leurs instituts théologiques, que le modèle trinitaire est un modèle communautaire, le modèle par excellence communautaire. Vous voyez, il n'y a pas de conflit entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, il pourrait y en avoir, mais il n'y en a pas. Vous voyez, ça se résout, comme par magie. Ben oui, parce que c'est la communauté divine qui nous pose modèle. Et donc, si on prend modèle contre ça, on peut pas avoir de dissension entre nous. Ou s'il y en a, ça va se régler illico presto. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est que Dieu nous donne des modèles. Et lui-même est un modèle pour nous, un modèle communautaire. Et l'Église devrait être basée sur cet esprit communautaire qui est en Dieu. Un et plusieurs. Dans Éphésiens 4, verset 1er, voilà ce que Paul déclare. Il dit, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment, de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Verset 2, « Soyez toujours humbles. » Donc ça, c'est la base de tout chrétien. « Soyez humbles, ne prétendez pas savoir si vous ne savez pas, vous êtes humbles. » Aimable, patient, comme vous l'êtes tous. Supportez-vous les uns les autres. Donc voilà, il faut se supporter. Avec amour. Avec amour. Verset 3. Efforcez-vous. Efforcez-vous à quoi? Vous savez la suite? Il y en a qui savent la suite? Efforcez-vous à quoi? Pardon? Non. Oui, il vient de la paix, oui, vous avez une partie de la réponse. Mais le plus important, c'est supportez-vous, efforcez-vous de conserver l'unité. On parle de Echad, un. L'unité, je parle de l'unité. Je prends ce verset parce qu'il est parfaitement adapté à Echad. On est plusieurs et on doit conserver l'unité. Alors qu'on n'a pas l'unité, puisqu'on vient de races différentes, de cultures différentes, de socialistes différents, de tout différent, des hommes et des femmes différents, voilà, c'est impossible de s'entendre a priori. Et il dit conserver l'unité. Alors bien sûr, il donne le moyen que donne l'esprit. Alors déjà, c'est l'esprit qui donne l'unité. Donc déjà, on n'est pas tout seul à chercher à nous efforcer, hein, parce qu'on est aidé par le Saint-Esprit. Dans la paix, bien sûr, qui vous lie les uns les autres. Et quand il y a un manque de paix, c'est sûr que c'est impossible à conserver l'unité. Et le rôle du pasteur titulaire, vous le verrez comme à l'Assemblée Générale, c'est de maintenir la paix. Et ce n'est pas évident. Regardez aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Vous voyez de la paix dans le monde? Vous regardez les nouvelles tous les jours? Tout le temps? Il y a un nouvel embrasement, tout ça. Ça, c'est le monde. Et dans l'Église? Il y a la paix dans l'Église? Vous n'osez pas répondre. Hein. Ben, c'est marqué « Efforcez-vous de conserver l'unité ». C'est marqué là. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas évident, mais c'est un effort à faire, sachant qu'on est aidé par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis devenu pasteur, je n'ai rien demandé à personne. C'est Dieu qui m'y a poussé dans les années début 90. Et j'ai vu une église qui se divisait devant moi. J'ai dit « Attends, là... moi, j'ai un boulot qui me donne satisfaction. Voilà, je suis comme Pesquette, je travaillais dans l'espace pour les satellites, les fusées, tout ça. Et j'ai dit, attends, je ne veux pas quand même être pasteur d'une église qui se divise et de voir ça, pas de paix. C'est pour ça que j'ai dit, niette, je vais chercher à savoir comment on peut garder la paix. Et on y est arrivé grâce à un cadre légal et qu'on continue à développer avec la venue de Pierre. L'unité préexiste en Dieu et dans l'Église, qui est le corps spirituel du Christ. Alors, je me rappelle, Ricardo, que beaucoup connaissent maintenant, parce qu'il est réapparu ces derniers temps sur notre scène d'Église. Et il me disait quelque chose qui me choquait à l'époque, mais qui avait tout à fait raison. Il y avait beaucoup de révélations, lui, qui sortaient voilà, du raisonnement habituel. Il a dit, mais l'unité, c'est une aberration de chercher l'unité. Ouais, tout le monde cherche l'unité. L'unité des chrétiens. On cherche l'unité des chrétiens, l'œcuménisme et tout ça. Il dit, c'est aberrant. D'abord, l'unité, elle existe. Et il a raison, parce que c'est marqué. L'unité, elle existe. Oui. Il ne faut pas chercher à créer l'unité. L'unité, elle existe. Le problème, c'est qu'il faut vous efforcer de la conserver. Alors, bien sûr, les moyens, il y en a beaucoup. Ben déjà, il faut être humble, il faut être pas plein de soi-même, mais il faut être affable, il faut... Mais c'est l'objet de mon prédication aujourd'hui. Le rôle du pasteur titulaire principal, je dis ce passage, de l'Église locale, est de veiller à conserver cette unité, de conserver, parce qu'elle existe, le Saint-Esprit nous l'a donnée, elle est en Dieu, et puis il est dans l'Église, elle nous a donné, mais elle est composée d'une multitude de membres différents, avec des visions différentes, des paradigmes différents, avec des approches différentes, des points de vue différents. Mais cette unité, elle est en vue d'un témoignage, pour témoigner au monde. Est-ce que l'Église témoigne au monde que l'Église est une et indivisible? C'est ça le challenge. Eh bien, on a tout faux. On pointe sur Israël, mais on n'est pas mieux qu'Israël. Pourquoi? Parce qu'on est, humain, on a la chair, mais il faut peut-être vaincre la chair. Grâce au Seigneur, on a pu acquérir le ministère de la Maison d'Élie, qui aide un petit peu, repousser les frontières de la chair. Bon, ça diminue, ça les enlève pas complètement, mais la chair nous pose problème. L'unité nous enseigne sur la cohérence et l'intégrité morale. Cette unité est individuelle et sociale. Le bon fonctionnement de la société est fondé sur une personnalité solide, équilibrée, en un mot, unifiée. Par conséquent, une personnalité émiettée, disloquée, schizophrène, étymologiquement schizophrène, c'est un esprit coupé et déchiré, met en danger tout l'équilibre d'une société et la disloque. Et on est tous plus ou moins un peu déséquilibrés. Hein. Pour nous signifier cette idée, la Torah nous explique. Alors c'est là que la lecture de la parole est importante, avec ces yeux-là, nous explique dans les moindres détails la construction de la Mishkan, alors je ne sais pas si je prononce bien le mot, c'est le sanctuaire, le tabernacle. On a fait venir, il y a des années, monsieur d'Espagne, qui est mort maintenant, qui avait une grande maquette, qui a fait le tabernacle dans tous les moindres détails, et il a mis une semaine à nous expliquer tous les soirs, avec une conférence de 2 heures, pour expliquer tous les détails du tabernacle. C'était formidable. Tu te rappelles peut-être, Marie-France ?
Non.
Non, tu vois, elle était là. On a fait au CCY. Eh bien, ce tabernacle, qui nous sort un peu par les yeux quand on commence à lire tous les détails, c'est un symbole de l'unité de l'individu accompli. Il symbolise la société idéale, la communauté. Alors, vous dites, comment ça, le tabernacle symbolise la société ? Et ses composantes, les hommes et les femmes de toute nature. Et je vais évoquer avec vous 3 éléments, alors je vais essayer de faire vite parce que je suis en retard. 3 points, et je vais terminer là-dessus, la construction de l'arche, les chérubins et le candélabre ou la menorah. Alors tout d'abord, l'unité dans la construction de l'arche. L'arche, vous savez, le coffre, etc. À propos de la construction de cette arche qui contenait les tables de la loi et les débris des tables brisées du temps de Moïse, la Torah nous précise, tu la plaqueras d'or pur de l'intérieur et de l'extérieur. Autrement dit, l'intérieur est comme l'extérieur, tel doit être un homme. Chacun connaît au moins une personne qui peut vous embrasser et en même temps vous tenir un couteau dans le dos, hein, bien derrière le dos. Une personne unifiée est une personne qui n'est pas schizophrène, qui n'est pas coupée en deux. Cela veut dire que je ne peux pas dire quelque chose et penser autre chose. Un père ne peut pas dire à un enfant ce qu'il faut faire, par exemple ne pas mentir ou voler, et ne pas lui donner l'exemple. Cet intérieur et cet extérieur, qui doivent s'accorder, ont une profonde signification. La langue hébraïque, qui exprime la pensée juive, utilise le même mot pour exprimer l'intérieur, qui s'appelle penim, et un mot qui désigne aussi le visage, panim. Au pluriel, car on a les yeux, les oreilles, etc. Donc panim, c'est le pluriel. Panim, ces 2 mots sont composés des mêmes lettres pour nous dire que les 2 doivent être identiques. Cette idée de visage, en concordance avec l'intérieur, reflet de la spiritualité, parcourt toute la Torah. Et Moïse, qui parle à Dieu, panim et panim, visage contre visage, face à face, sans confusion, 2 droites parallèles, ne se rencontre jamais, eh bien c'est le face-à-face de 2 faces identiques. L'unité se retrouve dans tous les aspects de la vie juive. L'arche était en bois d'acacia. Elle devait être dorée de l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est le symbole de l'unité de Dieu, de la vocation de l'homme à l'unité, et celle de l'Église à l'unité. Nous devons tous tendre vers l'unité. L'unité se retrouve dans tous les aspects de cette vie juive qui est décrite dans l'Ancien Testament, même dans les lois de la nutrition. Le judaïsme interdit la consommation de porc, bien qu'extérieurement il réunit les signes de la cacheroute, il y a des sabots fendus, les pieds fourchus, et d'un point de vue extérieur, il semble donc cachère, mais à l'intérieur, il ne rumine pas. Donc vous ne mangerez pas de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu, et qui rumine. Oui, c'est à cause de la cohérence. Il est donc interdit, parce que l'intérieur n'est pas identique à l'extérieur. L'apparence est bonne, mais l'intérieur est mauvais. L'arche est conduite dans un premier temps en bois, mais ce bois n'est pas apparent, et on ne voit que l'or pur à l'extérieur. Parce que le bois est facile à acquérir, mais l'or demande beaucoup de travail. Pour nous dire que la Torah exige beaucoup d'efforts pour être acquise, nous devons passer du temps et passer du bois à l'or par la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la parole. Et c'est pour ça que le juif dit un enfant intelligent, c'est un enfant qui pose des questions parce qu'il sait qu'il ne sait pas et donc il pose des questions. Et celui qui sait tout, ben, voilà, il s'arrête dans sa croissance. Il reste du plomb, il reste, voilà, il ne devient pas de l'or. Deuxième exemple, l'unité des chérubins. Nous devons donc imaginer cette arche avec les tables brisées à l'intérieur, les nouvelles tables avec un couvercle sur lequel deux figures ailées, qui se regardent face à face, sont établies. Les chérubins représentent l'enfance et l'innocence. Et là encore, eux aussi doivent être un. La Torah exprime cette idée en nous disant que la fabrication des chérubins doit être d'une seule pièce et ne doit pas se faire par un montage. Vous voyez, on monte le bras, on monte les ailes, etc. Non. Cette unité dans la fabrication concerne toutes les pièces de l'arche. La Torah dit à ce propos, tu feras des barres dans les anneaux sur les flancs de l'arche pour porter l'arche. Et elle ajoute, ces barres ne seront jamais retirées, mais doivent faire partie de l'arche. C'est pour ne pas briser l'unité. Dernier exemple, la menorah, le chandelier à sept branches. C'est le symbole du peuple d'Israël, vous le savez. Trouve sur pas mal de choses, sur les drapeaux, etc. Et à son propos, la Torah dit, « Tu feras une menorah, son socle et sa tige, ses coupes, ses boutons et ses fleurs en seront, le verset 32 par les branches et les versets 33, 34, 35, 36 décrivent le reste de la menorah. Les boutons se fanent très vite, ils représentent les personnes sans trop de volonté pour appliquer toutes les mitzvot, toutes les recommandations. Les coupes sont le symbole de ceux qui ne pensent qu'à boire et à manger. La tige centrale représente les grands sages et les six barres, trois de chaque unité, le peuple qui s'accroche à la tige centrale. Donc ça, c'est l'explication des rabbins. Et enfin, la Torah ajoute, toute la menorah sera d'une seule pièce. Cela veut dire que dans le peuple, il y a toutes sortes de catégories. Il y a des bons vivants, il y a des savants, il y a des faibles, il y a le menu peuple, etc. Tout cela doit être d'une seule pièce, coulé dans un moule, et non pas par montage de plusieurs pièces. Et nous retrouvons encore une fois cette idée d'unité partout. Donc le modèle de la communauté doit refléter cette unité dans la diversité. Nous venons de toutes parts, les uns les autres, dans l'Église, par la nouvelle naissance, mais peu importe nos traces, nos couleurs, nos cultures, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a des problèmes avec l'unité. Et c'est là que commence la sanctification, mais j'en dirai pas plus aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Je voudrais juste citer le dernier verset de l'épître de Pierre qui conclut l'ensemble de cet épître. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous voyez, il nous promet la souffrance, souffrance de travailler cette unité, déjà en nous-mêmes, parce qu'on est déjà désunis à nous. On n'est pas complètement schizophrène, mais plus ou moins, on l'est en partie. Et il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est là. Donc après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc il y a de l'espoir. Pierre commence par ce verset et termine en disant il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, les gars. Mais allez-y, efforcez-vous de conserver l'unité. Amen. Amen. Tout le monde ne dit pas Amen, mais je ne vous force pas à dire Amen. Je ne vous force pas à dire Amen. Moi, je dis Amen, parce que moi, je sais que Dieu m'aide. Dieu m'aide. Dieu m'aide à vous supporter. Oui. Faut le dire comme il sent. Jésus dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est Jésus qui l'a dit. Mais bon, Jésus a dit, peut tout dire, il n'y a pas de problème. Bah, il est parfait. N'empêche qu'il en avait marre, parfois. Qu'il ne comprenne rien. Pierre, à la fin, il dit, mais non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Juste avant de mourir. Donc vous voyez, même Pierre avait de la chair. Pierre a dû passer par pas mal d'épreuves, mais je vous ai montré qu'il a dit « Je ne suis même pas digne de mourir comme Jésus. » Il a demandé à ce qu'on le crucifie la tête en bas. Ça, c'est un disciple. Est-ce que nous voulons être des disciples ? Bien, il faut souffrir un peu. Mais la gloire nous attend. Comme Marielle a pris ce chant à la fin. Hein, le roi, comment s'appelle le chant ?
Nous allons
voir le roi. Amen, amen. Bientôt, très bientôt. Amen. Donc, soyons confiants que le Seigneur nous affermira, nous aidera, nous donnera la grâce, nous aidera. Mais il faut collaborer en faisant des efforts. Et sonder notre parole, la Torah, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des trésors, et en particulier dans l'Ancien, à condition qu'on le regarde avec le regard du Nouveau, avec l'esprit de la loi, et de voir cette unité partout qui a été annoncée dans l'Ancien et qui s'est révélée avec le Messie qui est venu et qui l'a parfaitement accompli. Amen. Bien, Seigneur, merci de ta parole. Merci pour Pierre qui nous a révélé cette merveilleuse parole que nous avons juste vue rapidement sur ces deux premiers versets. Mais Seigneur, nous te demandons de nous aider afin que nous-mêmes, nous puissions être intègres dans nos voies par rapport à nos enfants, nos familles, mais aussi dans l'Église, et que nous puissions être témoins de cette unité, que nous soyons des témoins de l'unité de Dieu dans nos vies et dans notre Église. Nous te prions au nom de Jésus.
Amen.
Amen.